que le nom de Jésus, ni l'autre nom que le nom du Seigneur, ni l'autre nom que le nom de Jésus, n'est digne de louange, n'est digne de gloire, à lui soit la puissance et la gloire. Son nom est élevé au-dessus des cieux, son nom laissant remplir la terre, son nom est élevé au-dessus des cieux.
Allez-vous? Alors c'est vrai qu'on lave pas les baptisés, mais je reconnais que quelquefois, quand on connaît l'histoire de certains, on aurait envie de les faire tremper un peu plus longtemps. Non, je dis ça, c'est gentil, c'est gentil. Voilà. Là, le mois précédent, nous avions parlé de Abraham. J'aurais dû dire, est-ce qu'il y en a qui se rappellent de quoi on avait parlé? Ça aurait été peut-être plus, ça aurait été une feinte. Pour voir ceux qui suivent. Donc on avait, parce que Jésus dit, parlant de la résurrection, a dit plusieurs fois que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc cette qualification, cette qualité de Dieu revient souvent comme ça dans le Nouveau Testament. Moi je me suis dit c'est intéressant aussi que nous on se demande qui étaient ces braves gens. Donc Abraham. Alors Abraham, l'histoire d'Abraham est bien connue, enfin souvent bien connue, et puis Isaac souvent un peu moins. Est-ce que vous sauriez tout de suite dire ce qu'a fait Isaac? Bon, c'est pour ça qu'on est là, donc hein? Voilà. Alors, donc ça me rassure, ça va servir à quelque chose, hein? Voilà, très bien. Alors Abraham a vécu fort longtemps et il avait 100 ans à la naissance de son fils Isaac. Alors pour ceux qui ont un tout petit peu moins de 100 ans et puis qui donc vous pouvez encore avoir des enfants, hein? Je vais rassurer un tas de couples et voilà, vous pouvez rentrer ce soir, vous avez madame, vous avez 50 ans, 60 ans, vous pouvez encore avoir des enfants. Vous êtes rassurés? Pas tellement, hein, je crois, certaines, hein, voilà. Mais c'est quand même un peu miraculeux, hein. Alors, une chose qui était très importante dans la vie d'Abraham, et où on retrouve, c'est juste un tout petit rappel, c'est l'épisode le certainement le plus connu, c'est la fois où Dieu a mis la foi d'Abraham à l'épreuve et il lui a demandé « Sacrifie-moi ton fils Isaac ». Je ne veux pas revenir sur le sens de cette scène, on en avait parlé l'autre fois, mais seulement pour rappeler, parce que je crois que je ne l'ai pas dit suffisamment l'autre fois, c'est vraiment cette scène a vraiment un sens prophétique. C'est-à-dire qu'à travers cette scène, on voit comme l'annonce du sacrifice de Christ. Hein, pour bien comprendre que l'œuvre de Jésus, c'est pas quelque chose qui a été décidé, je sais pas comment dire, tardivement, ou c'est pas comme si le sacrifice de la croix était arrivé parce que les circonstances se sont trouvées défavorables, et puis il y a des méchants qui se sont élevés contre lui, alors finalement ils l'ont condamné. Non, c'est un plan que Dieu a fixé de toute éternité et qu'il a réalisé dans sa toute connaissance, dans sa science, éternellement. Et on retrouve ça dans la Genèse, c'est-à-dire des 1700 ans, peut-être quelque chose comme ça, avant Jésus-Christ. Et la scène d'Abraham qui monte sur la colline, sur le mont Morija, à l'emplacement où serait le temple plus tard, avec son fils Isaac, c'est le père qui sacrifie son fils. Et c'est là toute la représentation de la croix, c'est la représentation du calvaire, et c'est finalement l'agneau de Dieu qui va nous sauver et qui revit, qui ressuscite après. Alors ce Isaac, bien sûr, après il a grandi, et puis quand Abraham avait un petit peu plus tard, il était un tout petit peu moins jeune, il avait maintenant 140 ans. Et donc il était maintenant veuf, son épouse était décédée depuis 3 ans, et donc il a pensé que son fils Isaac avait besoin d'une épouse. Et voyez, la culture était un tout petit peu différente. Aujourd'hui, les parents auraient un peu du mal à se mêler de trouver de trouver une épouse pour leur fils ou un mari pour leur fille, et parce que nous sommes dans une culture où prévaut ce qu'on appelle aujourd'hui le mariage moderne, c'est ce qu'on appelle le mariage romantique. Et c'est-à-dire qu'on se marie parce qu'on s'aime. Bon, du reste, c'est une fort bonne chose, hein. Mais enfin, il faut aussi avouer quand même que dans notre culture, ce type de mariage, j'allais dire statistiquement, n'a pas fait ses preuves, puisque c'est celui qui aujourd'hui échoue le plus souvent. Alors je ne veux pas dire qu'on devrait revenir à une espèce de schéma de mariage qui serait imposé par les parents, ou dans le temps c'était comme ça, hein, les parents choisissaient, puis ils donnaient quelqu'un, et bon, il fallait s'en contenter, quoi. Mais finalement, d'un certain côté, ça marchait pas plus mal, hein. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se dire que la dictature des sentiments, la dictature de l'affectif et de l'émotionnel est pas toujours une bonne chose. Et c'est pas un problème d'épouser quelqu'un seulement parce qu'on l'aime, si on est capable d'avoir un tout petit peu de sagesse et de bon sens pour se demander, en dehors de ses sentiments, si effectivement cette personne correspond à ce qu'on veut vivre et à ce qu'on veut vivre avec. Et c'est pour ça que, dans le temps, le rôle des parents était un rôle qui était extrêmement important et sage. Alors, on devrait sans doute trouver un juste milieu. En tout cas, Abraham, lui, s'est dit, il faut que je trouve une épouse pour mon fils, hein, Isaac. Alors, il a envoyé, je vous raconte un peu l'histoire parce que dans Genèse 24, c'est un petit peu long, mais il a envoyé son serviteur, son meilleur serviteur, celui qui était le plus ancien de sa maison, celui qui était un petit peu le gérant de toutes ses affaires, et donc il l'a envoyé vers sa famille pour prendre pour son fils quelqu'un qui serait de sa parenté. Et donc ce serviteur est allé, et on voit que c'était aussi quelqu'un qui était comme Abraham, à l'école d'Abraham, il était aussi rempli de foi. C'est quelqu'un qui marchait avec Dieu. C'est pas simplement quelqu'un qui était qui avait, j'allais dire, la religion d'Abraham parce que c'est son patron et qui peut pas décemment faire autrement, mais c'était quelqu'un qui avait réellement aussi la foi. Et ce serviteur est allé et il a demandé à Dieu des signes. Là où il est arrivé, il a dit, je veux un signe pour que la première jeune fille qui vienne et qui accomplira tel service, puiser de l'eau, tout ça, que celle-ci, qu'elle réponde favorablement à ma demande et que tout de suite je sache que Dieu, c'est toi qui me conduis. Et les choses sont arrivées exactement de cette façon-là. Et j'ai trouvé intéressant de voir que Abraham a pas vécu sa foi tout seul, comme si c'était seulement sa relation personnelle avec Dieu, mais il a su communiquer sa foi, il a su la transmettre, hein, et les gens qui vivaient avec lui vivaient également aussi avec la foi, ils vivaient également avec la connaissance de Dieu, et ils étaient capables, quand ils étaient à 1000 kilomètres de chez eux, ils étaient capables de vivre comme à côté d'Abraham. Et ça, c'est intéressant parce que on peut quelle sorte de foi on a, quelle sorte de comportement on a. Est-ce que le comportement qu'on a en Dieu est un comportement qui est dépendant de ce qui se passe autour de nous? Et quelquefois, on s'aperçoit qu'il y a, par exemple, dans les familles avec des grands enfants, eh bien, ils ont un tel comportement quand ils sont dans la maison ou quand ils sont dans l'église. Mais si jamais ils sont un petit peu loin et qu'ils ont l'impression qu'il n'y a plus de caméra comme ça, ils ont le senti. Tout d'un coup, les comportements changent. Hein. Et des chrétiens aussi sont quelquefois comme ça. Quand ils sont en vacances, ils partent tout d'un coup. Je sais pas moi, où c'est que vous allez d'habitude? Au Baléares, aux Canaries, hein? Eh bien, quand ils sont loin et qu'ils ont le sentiment que là, c'est sûr qu'ils vont pas croiser le frère un tel ou le frère machin ou la sœur chose qui est tellement spirituelle, eh bien là, tout d'un coup, les comportements changent. Et ça démontre que leur foi est seulement une foi de mimétisme. C'est une foi, leur comportement est un comportement qui est un comportement apprêté. La vraie qualité de notre vie avec Dieu, de notre religion, c'est surtout quand on est tout seul. C'est impossible de savoir si quelqu'un est un adorateur dans l'église. Parce que là, dans l'église, tout le monde, quand on dit c'est le moment d'adorer, ben, tout le monde adore. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous êtes venu pour ça, hein? Hein? De toute façon. Mais on voit un adorateur s'il sait adorer tout seul. Quelqu'un sait prier, s'il sait prier aussi quand il est tout seul. Mais c'est bien aussi de prier tous ensemble. C'est bien de savoir quelle morale on a, si quand il n'y a aucune pression, rien qui nous regarde, quand on est loin, c'est là que Dieu sait effectivement ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas. Et c'est bien, moi j'étais content de voir que ce serviteur, dont dans ce paragraphe-là, dans ce chapitre, on nous donne même pas le nom, mais que c'était quelqu'un qui avait une intégrité. Et il voulait tellement réussir sa mission que quand il a trouvé la jeune fille qui convenait telle que Abraham lui avait dit, alors on lui a proposé de passer, il avait fait un long voyage, hein, on lui a proposé de se reposer, de prendre un peu du bon temps avant de rentrer. Il a dit non, ma mission est en train de réussir, donc moi je veux rentrer vite, ne me faites pas perdre du temps, on remet les bagages sur les chameaux, allez hop, on y va. Et il était décidé, il voulait pas. Voilà quelqu'un qui aime ce qu'il fait parce qu'il travaille directement, il savait pour qui travailler, pour Abraham, mais il sait qu'il travaille pour Dieu. Est-ce que nous avons toujours cette diligence, hein, pour le Seigneur? Vous savez ce que c'est qu'une diligence? Vous avez lu un peu des Lucky Luke, tout ça, vous savez ce que c'est que, hein? Eh bien, dans la vie des chrétiens aussi, des fois, il y a l'attaque de la diligence, hein. La diligence, c'est la promptitude à obéir, hein. Et c'est bien d'avoir du zèle. Hein. Soyez fervent. Et montrez du zèle et non de la paresse, hein, dit la Bible. Alors, cette histoire a aussi un sens prophétique. Hein. Abraham, qui représente donc le père, et Isaac, qui représente le fils, d'un point de vue un petit peu, hein, ce qu'on appelle en analogie, c'est-à-dire c'est comme des images, comme des paraboles qui nous sont projetées. Et on voit ici que le père, Abraham, veut donner une épouse à son fils. Et c'est ce que Dieu veut faire avec son fils Jésus-Christ. Toute l'histoire de l'humanité est cette histoire-là. Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'humanité ? Tiens, c'est vrai, c'est finalement. Finalement, on peut se dire, mais pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde ? Est-ce que Dieu s'ennuyait ? Est-ce que Dieu avait besoin de quoi ? Mais Dieu avait besoin de donner une épouse à son fils. Parce que Dieu a un fils de toute éternité. Alors Dieu veut lui donner un fils. Et c'est pour ça que Dieu a créé le monde, le cosmos. Et c'est pour ça que dans le cosmos, il a mis la terre. Et c'est pour ça que sur la terre, il a mis une humanité. Et c'est pour ça que dans cette humanité, il a élu une épouse pour son fils. C'est l'histoire du monde, c'est ça. L'histoire de la Bible, c'est l'histoire de ce couple. C'est pour ça que toute l'histoire de la Bible commence par l'histoire de ce couple et finit par l'histoire de ce couple. Le début de la Genèse, c'est l'histoire du premier couple, Adam et Ève, qui représente ce couple prophétique qui vient, et le vrai couple, c'est Christ et l'Église. Et la Bible se termine par la conclusion de cette histoire. À la fin de l'Apocalypse, c'est les noces de l'agneau, c'est-à-dire c'est les noces de Christ et de son épouse, l'Église. Ça va, vous me suivez ? C'est pour ça que l'histoire d'Isaac, l'histoire du mariage d'Isaac, est pas simplement, ne rentre pas simplement dans les faits divers, dans des faits divers, comment on appelle ça, le carnet, comment on appelle ça, dans le journal, le carnet civil, là, je sais plus quoi. Enfin, voilà, c'est pas un fait divers. C'est le programme. Dieu révèle prophétiquement dans ce passage quel est son programme. Son programme, c'est de donner une épouse à son fils. Et c'est le père qui l'envoie chercher. C'est le père qui l'a fait chercher. On peut lire, par exemple, dans Éphésiens 5, 29, 32, quel passage qui éclaire ce passage. Paul, parlant du couple humain, dit « Personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. » Voilà, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Un mystère, au sens biblique du terme, c'est quelque chose que c'est une réalité que l'on ne peut pas comprendre par nous-mêmes sans la révélation de Dieu. Mais une fois que la révélation de Dieu est venue, alors ce mystère devient une révélation. Donc cette réalité de Christ et de l'Église, c'était un mystère jusqu'à ce qu'il soit réalisé. Quand il a été réalisé, quand Christ a donné, par sa mort, il a donné naissance à l'Église, il a vraiment créé l'épouse qui deviendra la sienne. Comme Adam, en passant par un profond sommeil qui représentait la mort, a donné naissance par la main de Dieu, qui est venu lui chercher une côte, et qui lui a donné donc une épouse. On peut lire aussi Apocalypse 21:9, deux petits versets. Enfin là, bon, c'est pas tout le verset. Voilà, la fin du verset en bas, vous voyez, dit « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Ça, c'est l'Église. L'Église est l'épouse de Christ. Et puis aussi le verset 22-17. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». L'épouse aspire à la venue, à l'avènement de son épouse. Les noces de l'agneau, c'est la rencontre éternelle et bienheureuse de l'épouse, l'Église que nous sommes, et de Christ. Et tout ce chapitre 24 de la Genèse est en train, sous une forme imagée, comme une parabole, de décrire ça à l'avance. C'est pour ça que la figure d'Isaac est une grande figure biblique. Alors évidemment, je sais bien qu'Isaac, lui, pendant sa vie, n'avait pas conscience de jouer en quelque sorte ce rôle-là, mais en tout cas, c'était son histoire. Ensuite, on voit que ce couple donc de Isaac et Rebecca a été en difficulté. Rebecca était stérile. Alors on pourrait dire bon, c'est un petit peu dans la famille, c'est un peu une marque de fabrique. Et c'est vrai que qu'à chaque génération il y avait des difficultés à cet égard. Hein. On peut lire au chapitre 25 hein, un petit bout à partir du verset 19. Hein. Voici la postérité d'Isaac, le fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, et Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Alors elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, ce sont deux nations qui sont dans ton ventre. Et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, mais c'est le plus grand qui sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici qu'il y avait donc des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poils et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Vous voyez, au début de ce passage, quand on voit que Isaac implora l'Éternel parce que sa femme était stérile, tout de suite on n'a pas forcément saisi qu'il s'est passé 20 ans. Hein? Vous voyez, des fois dans la Bible, on voit des choses comme ça et on se dit ça va vite et ça semble simple. Hein? Sa femme n'était pas enceinte. Bon, il a prié. Ah, ben tiens, ça y est, elle est enceinte. Ouais, enfin bon, avec ce qui, ouais, la suite quoi. Mais et ça a l'air tout simple, ça a l'air d'aller très vite. Mais il y a 20 ans entre les deux. Et je voudrais quand même nous rappeler qu'il nous faut admettre. Hein, que c'est juste de prier et que c'est juste de persévérer et que c'est juste de tenir et que Dieu nous demandera souvent de la patience. Vous voyez, pourtant, il est écrit « et Dieu l'exauça ». Alors, pourquoi est-ce qu'il faut prier quelquefois longtemps? Et je pense que des fois, certains chrétiens ont l'impression un petit peu que Dieu, alors je dirais, c'est presque comme si une sorte de jeu de mots, mais on dirait que Dieu aime se faire prier, hein. Hein? Et l'expression est un peu double, parce que c'est vrai que Dieu aime qu'on le prie, mais je ne crois pas que Dieu aime se faire prier. Certains prient comme s'il fallait finir par décider Dieu, quoi. Hein, comme si à force de dire, allez, s'il te plaît, si, allez, si, juste une fois. Et alors, bon. Et comme si, voilà, Dieu est un peu, ouais, il aime à se faire tirer l'oreille comme ça. Puis quand vraiment il voit que, oh, il dit bon, allez, ça y est, maintenant tout le monde est là, ils attendent. Allez, oui, voilà, ça y est, viens, tiens, allez, viens chercher. Hop. Non, Dieu fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est seulement notre immaturité et notre méconnaissance des choses spirituelles qui nous le présentent comme ça. Dieu aime exaucer. Et puisque Dieu, lui, n'est pas contraint par le temps, comme nous le sommes, que lui, il réponde à une prière aujourd'hui ou dans 20 ans, pour lui, par rapport à l'éternité, c'est quoi? Que ce soit aujourd'hui ou dans 20 ans ou plus tard, ça change rien. Donc si Dieu le fait pas maintenant, et si Dieu répond plus tard, c'est parce que la raison n'est pas en lui, parce qu'il n'aimerait pas exaucer tout de suite, c'est parce qu'il a des raisons précises, que nous ne connaissons pas. Mais ça, c'est une partie de la foi, de croire que Dieu sait ce qu'il fait. Et la foi, des fois des miracles de foi, c'est pas simplement, bien sûr ça comprend, la foi pour, par exemple, pour guérir les malades ou toutes sortes de miracles, mais aussi la foi de croire que Dieu ajuste dans ce qu'il fait alors qu'on ne le comprend pas. Ça demande souvent beaucoup de foi. Quand on attend depuis 20 ans, et puis tout d'un coup, même quand on est exaucé, et même miraculeusement, des fois, on se dit, mais au fond, Bon, merci, merci Seigneur, je suis content d'être exaucé. C'est vrai, aujourd'hui je suis content, mais l'année passée c'était bien aussi, quoi. Non, vous pensez jamais des choses comme ça? Des fois on se dit, mais pourquoi? Puisque Dieu pouvait le faire, puisqu'il le fait aujourd'hui, puisque pour lui ça lui coûte pas plus, puisque ça lui est pas plus pénible, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait avant? C'est vrai, non? Alors, Dieu ne s'explique pas. Et il n'a pas besoin de s'expliquer. Attendez, Dieu est Dieu. Dieu n'est pas astreint à nous donner, à se justifier. Dieu n'est pas astreint à donner des explications. On va pas convoquer Dieu pour lui dire, bon, alors, voilà, notre comité s'est réuni et nous n'avons pas compris, la commission n'a pas compris, la commission d'exaucement n'a pas compris, pourquoi? Et on va demander à Dieu des explications. Mais Dieu, il rigole. Mais Dieu rigole. Dis, mais réunissez votre syndicat une autre fois, puis revenez me voir. Non, Dieu rigole. Il nous faut, à des moments, il nous faut décider que nous croyons que Dieu a juste. Et c'est une décision. Et vous allez me dire, c'est une décision aveugle. Exactement. 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 Qui sommes-nous et qui est Dieu pour demander à Dieu des explications, pour lui demander de se justifier? Mais Paul dit ça plusieurs fois dans l'épître aux Romains. Il dit, mais attends, c'est qui commande? C'est le potier ou c'est le pot? Non, tu vois l'argile l'argile que le potier est en train de faire, l'argile commençait à donner des conseils au potier. Un peu plus à gauche. J'aimerais avoir le pot qui commence à dire, j'aimerais avoir les oreilles un peu plus. Ah non, il est sourd comme un pot. Non. Alors, c'est intéressant. Moi, j'aime voir les exaucements, mais j'aime voir aussi la patience. Et je me dis, c'est quelque chose pour nous qui est important. Ils ont prié, persévéré, et ils ont consulté l'Éternel. Rebecca s'est pas laissée décontenancée. Elle a pris du temps. Elle a été consulter Dieu. Et Dieu lui a répondu. Dieu lui a répondu. Alors, Dieu ne nous répondra pas toujours de manière audible. Dieu ne nous répondra pas toujours par une prophétie tout d'un coup le mardi soir au micro. C'est pas toujours, voilà, papa Jean qui va se lever puis qui va dire, voilà, tu es venu ce soir et tu as demandé à Dieu telle chose, il te répond maintenant. Ça arrive, mais c'est pas toujours comme ça non plus, quoi. Hein. Mais Dieu nous répond quand même. Et vous savez comment, par exemple, Dieu nous répond? Dieu nous répond des fois tout simplement en nous donnant la force de continuer à avoir la foi dans la patience. Et c'est une réponse de Dieu. Moi, des fois, quand je vois que il y a des choses qui me sont difficiles, et puis ça m'est difficile, ça me tracasse, hein. Et puis un matin, je me lève, je repense à ça, puis maintenant, ça me tracasse plus. Je sais que Dieu m'a répondu. Il me répond en me donnant la capacité de le vivre, de vivre cette attente dans la foi et dans le contentement. C'est le contentement. C'est une réponse de Dieu que Dieu donne à notre âme. C'est pas une réponse explicite. C'est pas une réponse verbale. C'est pas une réponse avec des mots. C'est pas une réponse comme avec un courrier. Mais il faut savoir que Dieu veut faire de nous des gens spirituels. Spirituel, ça veut dire qu'ils marchent avec leur esprit branché sur l'esprit de Dieu. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose qui se fait, dont la communication se fait pas forcément seulement avec des mots qu'on entend. Mais Dieu met en nous ses valeurs, Dieu met en nous sa puissance, son énergie, Dieu nous communique ses qualités, et ça, c'est aussi sa réponse. Alors, un autre point on peut lire encore chapitre 25, les versets 27, 28. Hein. Là, c'est le gros problème, on va aborder le gros problème que Isaac a eu et qui a entraîné des conséquences vraiment désastreuses dans sa famille, parce qu'Isaac a fait du chouchoutisme. Vous connaissez le chouchoutisme? Cherchez pas dans le dictionnaire, ça n'existe pas. Et ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob était lui un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Et Isaac aimait Ésaü, parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Isaac, le papa, avait un chouchou. Il avait deux fils et il y en a un qui s'est mis rapidement à préférer. Parce que ce fils-là était un chasseur, parce que ce fils-là lui faisait des bons plats, il allait, il courait dans les bois, dans les champs, et il lui faisait après un gigot de cerf, ou il lui faisait je ne sais pas quoi, toutes sortes de petites choses comme ça. Et Isaac était un gourmand. Alors je sais qu'ici en Alsace, il faut expliquer ça, parce que beaucoup, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire en général. Et donc, ça, c'est un gourmand. Un gourmand, c'est quelqu'un qui accorde beaucoup, peut-être, et beaucoup, entre parenthèses, beaucoup trop d'importance au fait de manger bon. Parce que manger tout court, ça c'est qu'un goinfre. Hein, et le gourmand, c'est celui qui mange beaucoup en mangeant bon. Ouais, ouais, c'est un peu différent. Voilà. Disons que c'est un le gourmand, c'est un goinfre connaisseur. Hein, voilà. Et alors, donc Isaac, lui, était dans la bonne catégorie. Il était dans la catégorie de ceux qui trouvent que bien manger c'est bien, souvent c'est mieux, et beaucoup c'est parfait. Hein? Et alors donc il a fabriqué une relation avec son fils qui est une relation d'intérêt. Et à cause de ça, lui, le verset qu'on a lu dit, il aimait Ésaü. C'est pas marqué qu'il aimait ses deux fils, mais un peu plus. C'est seulement écrit qu'il aimait celui qui était un chasseur. Mais si on écrit seulement qu'il aimait celui-là, ben, ça sous-entend qu'il aimait pas beaucoup l'autre. Et c'est pour ça que la maman, par une compensation maternelle, évidente, c'est comme une espèce de sauvegarde pour son autre fils, eh bien, elle s'est mise à aimer l'autre. Parce que son autre fils était menacé. Alors, comme celui qui n'était pas le chouchou du papa, il était négligé, alors elle, dans cet instinct maternel, elle, par répercussion, elle s'est mise à l'aimer plus. Donc, maintenant, les deux parents avaient chacun leur fils. La famille est éclatée. C'est un problème, c'est pas simplement un problème pour Jacob parce que son père l'aime pas, mais maintenant c'est un problème parce que pour Ésaü parce que sa mère ne l'aime pas. Et donc maintenant c'est un problème entre les deux parents parce que chacun sait que l'autre n'aime pas son préféré. Et c'est aussi forcément un problème entre les deux frères parce qu'ils sont rivaux. Qui n'est pas le rival de quelqu'un dans cette famille maintenant? Tout le monde était en difficulté. Parce que le père a fait une préférence. Et j'aimerais vraiment dire que cet exemple-là, avec toutes les conséquences extraordinairement dramatiques qu'il y a dans cette famille, et pour des années, des générations à travers ça, c'est un exemple qui nous est donné pour dire que nous ne devons pas faire ça. Et malheureusement, c'est quelque chose qui, dans toutes les cultures et dans tous les siècles et dans toutes les générations, partout on trouve des exemples comme ça. Et partout où ça se produit, c'est quelque chose qui est extraordinairement destructeur. Pas simplement pour l'enfant qui sent bien qu'il n'est pas aimé comme l'autre, mais ça crée indirectement des relations fausses et des difficultés, des rivalités entre tous à la fin dans une famille. Et je voudrais vraiment dire aux parents, à tous ceux qui sont parents, je veux dire, faites bien attention à ça. Vous n'avez pas le droit de préférer un de vos enfants et encore plus de le faire sentir aux autres. Vous n'avez pas le droit, la Bible interdit ça. C'est une chose qui paraît comme ça, quelquefois, comme, j'allais dire, comment je pourrais dire ça? Comme devant la loi, c'est pas un délit. Alors, on a quelquefois l'impression que c'est une faute un peu mineure. Mais c'est quelque chose qui est plus destructeur dans les familles que des tas d'autres choses. Vous avez des enfants qui seront moins détruits pour avoir eu un père, ce qu'on appelle en psycho un père absent, ils seront encore moins détruits que d'avoir eu un père bien présent, mais qui préférait leur grand frère. C'est encore pire. Et je voudrais vraiment dire, hein, c'est quelque chose qui est important. Hein. Je crois que c'est important pour peut-être pour quelqu'un ou quelques-uns ce soir, Si vous faites des préférences dans vos enfants, ou peut-être même à un deuxième échelon au niveau des petits-enfants aussi, c'est terrible aussi. Et devant Dieu, vous n'avez pas le droit. Si vous sentez dans votre cœur que c'est le cas, excusez-moi, mais vous devez vous repentir. Vous devez demander pardon à Dieu, et vous devez demander à Dieu qu'il change votre cœur. Et si ce tort, a été perçu d'une façon ou d'une autre par vos enfants, vos petits-enfants, il vous faut aller leur demander pardon pour casser, autant que c'est possible encore, pour casser les répercussions de ce mal. On ne peut pas laisser courir des choses comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Certains, et vous savez, quand on est dans des cas comme ça, le plus souvent, on les nie. Non, je le préfère pas. C'est simplement que il a un caractère qui s'accorde mieux avec le mien. Oui, bien sûr. Ben l'autre, il y a longtemps qu'il s'accorde plus, hein. Comme il a compris chaque fois qu'on lui adresse la parole, qu'il adresse la parole, il se fait jeter. Il y a longtemps qu'il s'accorde plus grand chose, hein. Attends, c'est normal. Non, il faut faire attention à ça. Un père, par exemple, préférera un de ses garçons parce que c'est un garçon qui est sportif, un peu athlétique, et puis alors le père se projette en lui, il le voit devenir champion de football ou quelque chose, ce que lui il aurait voulu être, mais il était nul. Mais alors il pense que son fils aurait pu le devenir. Et il vit à travers son fils, il fantasme dans l'avenir de son fils ses propres regrets. Alors s'il a un autre fils à côté qui lui est malingre et qui aime jouer de la harpe, alors bien sûr celui-là... Et ou ça peut être une maman qui préfère une de ses filles parce que, je sais pas, parce qu'elle est... Peut-être parce que physiquement elle est plus mignonne. Ou ça peut être, je sais pas, toutes sortes de choses, ou parce qu'il y en a un qui a plus de facilité à l'école, ou qui en a moins, ou qui est plus ceci, cela. Et alors on trouve des raisons comme ça, où on aime mieux les garçons, où on aime mieux toutes sortes de choses. Et toutes ces raisons-là sont des raisons qui sont fausses devant Dieu. Vous pouvez les tourner dans tous les sens, elles sont fausses devant Dieu, et il faut changer. Il faut changer, il faut demander pardon à Dieu, et il faut changer ça. Il faut changer ça. Oui, des fois il y a des péchés dont on dit qui sont plus grands que d'autres. Hein. Par exemple, si on disait la gourmandise, est-ce que c'est un grand péché? Même dans souvent on appelle ça dans le monde, on appelle ça la gourmandise, c'est un péché mignon. Pour trouver un péché mignon, il faut vraiment être spirituellement, il faut être aveuglé. Hein. Mais voyez ici, voyez comme un péché, une faiblesse. Isaac aimait la viande. Et simplement, pour une petite chose comme ça, pour une petite chose, il a détruit sa famille. Et c'est un petit péché, ça? Hein? Attends, c'est un vache de gros péché, hein? Aujourd'hui, il nous faut faire attention avec ces choses-là. Isaac, on reviendra peut-être sur ça plus tard. Isaac, positif, Isaac a réussi. On lit au chapitre 26, verset 12. Isaac il a semé dans ce pays, il recueillit cette année-là le centuple car l'Éternel le bénit. Le centuple. Je sais pas si... Alors les agriculteurs... Alors moi, vous savez, dans la formation biblique, les étudiants font des fois des mémoires comme ça. Et j'avais dans une promo un agriculteur, Daniel. Je ne sais pas s'il est là ce soir. Il est là-bas. Voilà, Daniel. Et donc, il m'a fait un truc qui était super sur le rapport entre l'agriculture et la Bible aujourd'hui. Et j'ai retrouvé dedans des choses intéressantes. Par exemple, je regardais le rapport entre les grains semés et les grains récoltés. Hein, voilà, un pour combien. Est-ce que vous avez une idée combien en France, quelle est la moyenne en France? Aujourd'hui, bien sûr, hein, je ne parle pas du Xe siècle. Hein. Aujourd'hui en France, la moyenne est 1 pour 32. Eh bien, Isaac a récolté 1 pour 100. Enfin, ou 100 pour 1 plutôt, hein. Oui, parce qu'un pour cent, ça serait dommage, hein. Non, il a récolté 100. Il a récolté. Oui, dans l'autre sens, c'est un peu dommage. Il a récolté 100 pour 1. En France, la moyenne aujourd'hui, c'est 32 pour 1. Et on pourrait, en labo, on peut faire des essais où on peut arriver à des résultats, des rapports bien meilleurs encore. Mais c'est artificiel parce que les conditions sont préfabriquées, hein. Mais on pense que, en Tunisie, aujourd'hui, le rapport doit être à peu près en moyenne de 5. Pour un. Et au temps biblique, hein, ça pouvait être encore moins que ça. Pour arriver aujourd'hui à un tel rendement, il faut une combinaison, dit Daniel, hein, si c'est pas, vous allez le voir après, une combinaison positive de tous les facteurs d'environnement climatique, tout ça, et donc cet environnement parfait dans tous les domaines, statistiquement, pratiquement n'arrive jamais. Et on comprend mieux que les Philistins, qui était autour de chez Isaac, l'ont envié et l'ont, jusqu'à le chasser loin de chez eux. La grâce de l'Éternel ne s'était pas manifestée à moitié, mais vraiment puissamment. On imagine que de tels faits devaient être rarissimes, voire inexistants à l'époque, et que, évidemment, ça a marqué tous les esprits alentour. Hein. Donc, cette bénédiction d'Isaac est une bénédiction miraculeuse. Vous voyez, quand on connaît pas, si on connaît pas les tenants, les aboutissants, on lit ça, on dit bon, il récolta le centuple, bon ben c'est bien quoi. Attends non, c'est pas bien, c'est un miracle, c'est impossible, ça n'arrive pas, ça n'arrive jamais. Mais c'est arrivé là. Isaac était un type qui savait travailler avec la bénédiction de Dieu. Et puis plus tard, ça j'aime bien aussi chez lui, c'est que c'est un homme de paix. Un homme de paix. Parce qu'il avait creusé un puits, puis ces puits, ça c'est dans Genèse 26, après, mais on va pas tout lire. Et ce puits a été contesté. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il l'a laissé. Il a été en creuser un autre. Et ce puits, de nouveau, a été contesté par les peuplades autour. Ils ont dit, oh, t'as d'autres. Bon, prenez-le. Il est allé, jusqu'à ce que, à la fin, peut-être les autres étaient lassés. Finalement, il a eu la paix. On lui a laissé son puits. Il a pu travailler dans la paix. C'est un homme de consensus. Un homme qui, tant qu'il peut, qui refuse la bagarre, les conflits. Et Dieu dit qu'il aime les gens qui sont des gens de paix. Jésus dit dans les Béatitudes que ceux qui fabriquent de la paix seront appelés fils de Dieu. C'est-à-dire qu'en étant des gens qui fabriquent de la paix, on ressemble à la nature de Dieu, à la nature du fils de Dieu. Est-ce que vous aimez la paix? Est-ce que vous aimez fabriquer de la paix? Ou est-ce que si, hein, comme certains disent, moi j'aime la paix, mais si on me cherche, on me trouve, hein? Ouais, mais ça quelque part, mais tout le monde est comme ça. Ça c'est la nature. Ça c'est pas être un homme de paix, hein. C'est un homme de paix à condition qu'on me cherche pas. Mais ça c'est la nature. Mais Isaac savait être un homme de paix quand c'est difficile, quand il y a un conflit qui arrive. Je discutais aussi avec un des étudiants de la promo de cette année, et c'est un grand, cherchez pas, hein, lequel c'est, il est grand, un peu frisé, ça commence, son prénom c'est Dominique, et donc, non mais comme ça je vous dis pas qui c'est, et donc, non j'ai pas dit son nom, et alors... Lui, dans le temps, il a été ceinture noire de je sais pas quoi, un truc, vous savez, je sais plus lequel, enfin, chose comme ça, quoi. Et une fois, quelqu'un, dans la rue, l'a pris à partie, l'a menacé. Il m'a dit, mais si je voulais, en quelques secondes, je l'aurais démoli, quoi. Bon, il m'a dit, mais j'ai choisi de faire autrement. Alors il s'est caché derrière une voiture, l'autre l'a cherché, quand il est arrivé derrière, il est parti derrière une autre, jusqu'à ce que l'autre était complètement fatigué de lui courir après, à la fin il est parti, il a abandonné. Et je dis, voilà, ça c'est une vraie victoire. Ça c'est une meilleure victoire que de lui avoir collé deux pêches et puis d'avoir laissé le gars étendu en lui disant, écoute mon vieux, fallait pas me chercher, hein. C'est une meilleure victoire, parce que c'est une victoire qui construit la paix. Parce que chaque fois que nous réagissons avec sans cette paix, chaque fois que nous réagissons en rentrant dans les conflits, alors nous provoquons les conditions pour qu'un autre conflit vienne aussi après. Je dis pas qu'il faut être mou, c'est pas ce que je veux dire. Je dis pas qu'il faut pas répondre à chaque personne ce qu'elle doit entendre, qu'il faut pas être ferme. C'est pas ce que je veux dire, hein. Mais je veux dire que il nous faut travailler au consensus, travailler à la paix. Trop de gens ont des caractères qui ne sont pas rabotés. Il y a trop de chrétiens qui sont restés rugueux. Il y a trop de chrétiens qui sont facilement énervables, hein, qui sont facilement irritables, hein, qu'on peut facilement chercher quand on les trouve. Mais il y en a, vous les cherchez, vous les trouvez pas. Vous les cherchez, vous les trouvez pas. Mais ils sont là quand même. Et je crois que un des aspects du caractère de Christ, hein, eh bien, c'est ce caractère aussi paisible. Alors, paisible, c'est pas simplement pour les hommes en particulier, hein, c'est pas simplement le fait de ne pas rentrer dans la lutte armée physique, hein, mais c'est aussi la capacité de maîtriser ce qu'on dit avec sa bouche, hein, parce qu'on peut aussi être très agressif en parole. On peut faire beaucoup de mal avec quelques mots agressifs, et Dieu nous en demandera compte aussi. Aimons la paix, fabriquons de la paix, procurons de la paix là où nous sommes. Vous savez, c'est facile d'être en paix avec les gens tant qu'on n'est pas confronté. Mais c'est quand on commence à faire quelque chose ensemble. Commencer à faire une équipe. Tiens, par exemple, je sais pas, tout à l'heure on parlait de la couture, le mercredi il y a la couture. Mais c'est certain que dès que vous mettez des gens pendant une journée entière à faire des choses ensemble, eh bien, on n'a pas tous la même façon de répondre à tel ou tel besoin. Il y en a un qui, je sais pas, il y a un frère qui va scotcher le carton, l'autre lui dit, ah, tu le scotches par là, tiens, moi j'aurais commencé l'autre. Ben non, c'est par là qu'il faut commencer. Mais rien que ça, ça y est, ça peut démarrer avec ça. Ça peut démarrer comme ça. Ou une sœur commence à piquer un truc. Alors là, les exemples, je vais rester flou parce que je manque un peu de, voilà, d'expérience. Enfin bon, il y en a une qui fait comme ça, l'autre dit que c'est autrement, et puis c'est tout. Mais ben écoute, hein, une fois j'étais dans un bloc opératoire, les deux chirurgiens étaient en train de se disputer au-dessus d'un malade. Finalement, il y en a un qui a dit à l'autre, bon ben fais comme tu veux, mais on verra à la fin. Et comme le malade n'était pas encore anesthésié, vous voyez, alors il ne s'est pas endormi paisiblement. Bon, vous me faites perdre le fil, là. Et parce que Isaac se comporte avec ce caractère de paix, c'est juste comme par hasard, à ce moment-là, que tout d'un coup, on nous lit 26, 23, 25, c'est à ce moment-là que Dieu lui parle. Oui, ça va arriver. Sûrement, je prophétise que ça va. Voilà. Il remonta de là à Beersheba, et l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains pas, je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Et c'est juste avant, c'est ce passage où Isaac a décidé de fabriquer de la paix. Alors Dieu vient à lui. Ne croyez pas que Dieu trouvera facilement à vous parler si votre cœur est dans des conflits. Ne croyez pas que Dieu vous parlera facilement. C'est pas que Dieu veut pas vous parler, c'est que vous ne serez pas dans les conditions pour l'entendre. Si vous êtes en conflit, si vous êtes en perpétuelle contradiction, si vous êtes toujours en bisbille avec quelqu'un, si vous avez toujours quelque chose dans votre tête qui vous trotte, en tout cas, quand je vais le croiser, tu vas voir, je vais lui dire, ouh là là, alors là, tiens, je vais le casser. Mais comment tu veux que Dieu te parle comme ça? Mais quand tu fabriques de la paix, alors Dieu lui apparut et lui dit, je vais te bénir. Et même dans l'histoire suivante, on voit que son adversaire même est revenu vers Isaac, et c'est son adversaire qui lui a demandé officiellement de faire la paix avec lui. Et ils se sont séparés tranquillement. Et je termine avec cette histoire. Isaac voulait bénir ses enfants. Il était maintenant sur la fin de sa vie et il était aveugle. Alors il a fait appeler son fils, bien sûr son fils préféré, et lui a dit, écoute, je ne sais pas combien de temps il me reste encore à vivre, alors je voudrais te transmettre vraiment la bénédiction du fils aîné. Mais d'abord, tu me fais un petit ragoût, hein? Alors, il a envoyé son fils pour aller lui chasser, je ne sais quoi, une gazelle ou quelque chose, et lui demander un plat. Et voyez, la grande faute d'Ésaü, d'Isaac, s'est concrétisée à ce moment-là. D'abord, il a fait une énorme faute, c'est que je ne crois pas que c'était qu'il était dans le timing de Dieu pour faire ça. La preuve, c'est qu'il se croyait mourant et il n'était pas mourant du tout. Isaac a vécu, après cet épisode, a vécu encore, je ne sais pas, 30 ou 40 ans. Jacob a eu le temps de partir, de passer 20 ans, de revenir avec 11 gamins, et il était encore là. Et lui, il se croyait mourant. Oh, je vais mourir. Peut-être qu'un petit sauté de gazelle me ferait du bien avant de partir. La succession, il n'a pas géré la succession d'une manière spirituelle. Mais la chair s'est mêlée dans cette affaire. Et il a mêlé ses motivations personnelles, ses réactions personnelles, ses appétits, si j'ose dire, là c'est le cas de le dire, avec la conduite de Dieu. Et il s'est fait rouler dans la farine parce que Rebecca écoutait aux portes, surtout dans les tentes, c'est plus facile, et elle a entendu tout ce qui se passait, et c'est à ce moment-là qu'elle a fait mettre son autre fils à la place. Enfin, on reviendra sur cette histoire peut-être la prochaine fois. Mais voyez, là où Isaac a péché, eh bien c'est là qu'il a payé la facture. C'est sa gourmandise qui a mis la zizanie dans sa famille. Alors c'est sur un plat de gibier qu'il a été trompé. Vous voyez ? On paye la facture là où on a péché. Dieu a tout son temps. Vous savez, quand on est éternel, on a tout son temps, hein? Alors Dieu a tout son temps. C'est pour ça que Dieu ne répond pas toujours aux fautes directement du tac au tac. Et c'est comme ça que quelquefois les pécheurs s'imaginent que parce que Dieu n'a pas rétribué le péché immédiatement, c'est qu'il a laissé tomber. Mais Dieu laisse pas tomber. Simplement, il a du temps. Il a tout son temps. Et Dieu répond quand il juge juste et bon de répondre. Et après toutes ces années où Isaac a mis en premier sa passion charnelle, qui a détruit sa famille, où il n'a même pas accepté d'être lucide sur ça, alors c'est un plat de viande qui lui a permis d'être trompé et de quelque chose qui a fini dans la honte. La fin de la vie de cette famille est une vie quand même relativement triste. Parce que à la suite de cette tromperie entre les deux frères, eh bien Jacob, qui était menacé par son frère, qui était devenu son ennemi, a dû se tirer. Et à la suite de ça, donc les parents ont perdu trace de leur fils, et la maman qui avait manigancé tout ça, eh bien finalement elle ne l'a jamais revue. Quand elle était décédée, quand Jacob reviendra beaucoup plus tard. Donc elle a fait tout ça pourquoi ? Pour mettre en avant son fils, et elle-même, eh bien après ça, elle ne l'a plus jamais revu. Comme c'est idiot. Comme c'est dommage. Et l'autre fiston, ben, il a pas très bien tourné. Il a épousé des femmes qui étaient pas des peuples d'alentour, qui étaient pas très bien. Finalement, eux, les parents se sentaient plus bien non plus avec lui. Qu'est-ce qui leur restait? Moi, je trouve que c'est une triste vieillesse. C'est dommage. Pourquoi s'être mêlé du plan de Dieu pour s'interposer dans ce que Dieu fait? Pourquoi ne pas laisser Dieu agir? Pourquoi ne pas laisser Dieu mettre en place toute chose? Je voudrais juste terminer avec un petit passage au chapitre 27. Chapitre 27, le verset 41. Ésaü, donc, qui a été trompé par son frère Jacob, conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont approcher, alors je tuerai Jacob, mon frère. » Et on rapporta à la maman, à Rebecca, les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Alors elle fit appeler Jacob et son fils cadet. Elle lui dit, « Voici, ton frère, Ésaü, il veut tirer vengeance de toi, il veut te tuer. Hein ? Maintenant, mon fils, écoute-moi, lève-toi. Fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui un petit peu de temps, jusqu'à ce que la fureur de son frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. » Il faudrait qu'il soit amnésique, hein. « Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour ?» Et Rebecca dit à Isaac, « Oh, mon chéri, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. » C'était les épouses de Ésaü. « Si Jacob prend une femme comme celle-là, parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie ?» Alors Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre, « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Hein. » Et que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond, te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Encore un verset. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ce que je voulais juste montrer, c'est que Rebecca, qui a gravement péché dans cette histoire, en fomentant cette espèce de complot pour tromper son propre mari, n'en a pas tiré les conséquences. Et maintenant, elle continue encore de manipuler son mari. Vous voyez, elle n'est pas venue trouver son mari en disant, écoute, regardons les choses en face. Nos deux fils sont maintenant des ennemis. Il y en a un qui veut tuer l'autre. Il faut quand même les protéger. Elle va encore trouver un moyen détourné de le manipuler. Et elle lui dit, tu vois, moi j'aimerais bien que Jacob épouse une fille bien qui vienne de notre peuple. Pourquoi est-ce qu'elle aborde pas la vérité? Pourquoi est-ce qu'elle aborde pas les problèmes? Pourquoi est-ce qu'elle dit pas vrai? Et finalement, après avoir manipulé tout le monde, elle continue de manipuler l'autre. Et notre bon patriarche Isaac, eh bien, il continue de se laisser mener par le bout du nez. C'est un homme qui a manqué de fermeté sur lui-même. Il a manqué de fermeté sur son environnement. Il a manqué de fermeté dans son propre foyer. Et comme c'est dommage. Et un homme de Dieu, comme celui-ci, je pense, aurait eu un autre avenir, une autre envergure, hein, s'il avait pris au sérieux ce qu'il était, la mission qu'il avait, ce qu'il devait faire et comment il devait le traiter. Vous avez des personnes qui ont un service pour Dieu et qui l'ont amoindri parce qu'ils se sont laissés manipuler, parce qu'ils se sont laissés commander, parce qu'ils se sont laissés mettre sous pression. Alors bien sûr, quand les pressions sont trop fortes et puis quelqu'un pète un plomb, on dit « Ah oui, mais il y avait telle pression. » Mais quelquefois, on a permis, avec le temps, que ces pressions deviennent si fortes. Et on aurait pu aussi les gérer autrement, et les bloquer et déterminer à l'avance ce qu'on doit faire. Vous avez des gens qui ont vécu avec des stress qui leur ont été imposés, mais quelque part, ils ont été à un certain moment responsables de ne pas mettre fin à ce stress et à ces pressions. Et le service de Dieu impose que vous soyez maître de ce que vous pensez, de ce que vous vivez et de la gestion émotionnelle de votre service. Et dans c'est vrai aussi dans les foyers. Alors, je suis pas en train de dire que les hommes doivent devenir des espèces de dictateurs machos. J'ai dit, voilà, Hugues, c'est un, hein, et que ma parole s'accomplisse. C'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire qu'il y a des ordres dans tous les fonctionnements de la société et que les méconnaître, hein, eh bien, c'est aller au devant de graves problèmes. Et Isaac a perdu de son autorité, il a perdu de sa prestance, de son rôle, de son onction, en n'étant pas clair avec ces choses-là. Voilà, on va prier. Excusez-moi, ça fait des choses un petit peu un peu hétéroclite, hein, mais on suit la vie de quelqu'un, donc hein, j'ai sélectionné quelques aspects comme ça, et c'est pas forcément tout très cohérent, c'est pas un seul point, mais ce sont ces personnages qui nous servent aussi d'exemple, et je crois que dans certains de nos domaines de nos vies, ça peut aussi nous donner d'être prudent, hein, et de chercher l'aide du Seigneur. On va prier si vous voulez. Seigneur notre Dieu, nous voulons te réclamer vraiment que tous ces exemples qui nous ont été donnés par ton Saint-Esprit dans ta parole ne restent pas comme seulement des histoires, hein, mais nous voulons que ce soit des exemples, hein, qui nous fassent du bien, des exemples qui nous enseignent, des exemples qui nous édifient et qui nous permettent de marcher en toi. Seigneur, nous ne voulons pas, comme le dit ta parole, nous voulons, comme le dit même le Nouveau Testament, nous ne voulons pas faire exception de personne, mais nous voulons aimer d'une manière juste et avec dévouement. Seigneur, je te prie de nous aider à entendre ton conseil, à entendre ta parole. Aide-nous, Seigneur, aussi à être des hommes et des femmes qui produisent de la paix, dont l'environnement soit paisible. Aide-nous, Seigneur, à remettre en cause nos réactions, les parties de nos caractères qui sont acides et qui, en tout cas, égratignent ceux qui vivent proche de nous. Nous t'en demandons pardon, Seigneur. Nous voulons être appelés fils de Dieu en produisant de la paix. Même lorsque c'est pas facile, même lorsqu'il y a des choses à perdre. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de nous donner aussi de voir ta bénédiction dans nos vies. Nous ne voulons pas courir après les choses matérielles comme si elles étaient un but en elles-mêmes, mais nous aimons voir ta bénédiction dans notre vie. Merci pour cet exemple d'Isaac qui a pu récolter au centuple. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce miracle d'abondance. Je te prie, Seigneur. Seigneur, que l'abondance revienne dans les cœurs de ceux qui se sentent dépourvus, de ceux qui pris depuis 20 ans et qui n'ont pas eu conscience d'être exaucés. Merci, Seigneur, de leur donner ce miracle aussi de patienter, de persévérer, de continuer de croire que Dieu a juste, hein, que Dieu a raison, que Dieu fait exactement comme il est bon qu'il fasse. Merci, Seigneur, hein, étant ta bénédiction sur nos vies. Amen. Hein. Voilà, je demanderai à Samuel de prendre la suite. Il est là.
Chantons ensemble ce chant. Ta paix est une rivière. Gardez peut-être juste un instant vos yeux fermés de manière à vous rappeler ce qui a été dit. Vous savez, il y a dans ce qui a été dit ce soir des perles qui peuvent changer votre vie, qui peuvent sauver encore votre couple ou votre famille, sauver vos enfants. Oui, simplement dire, et je m'adresse aussi aux amis qui sont là pour la première fois, vous avez entendu dans ce qui a été partagé, mais des conseils qui viennent de la parole de Dieu, mais qui peuvent littéralement changer votre vie. Nous allons prier pour les malades. Et là aussi, nous prions pour les malades simplement parce que Dieu dit dans sa parole que nous sommes appelés à imposer les mains aux malades et ils guériront. Je ne veux pas ce soir bien vous dire, on va vous expliquer comment ça se passe. Non, c'est Dieu qui guérit, c'est un acte de foi. Qu'est-ce que c'est la foi ? C'est faire confiance à Dieu. Seigneur, tu le dis, et puisque tu le dis, c'est que c'est vrai, donc j'agis en conséquence. Et c'est pourquoi nous allons prier pour les malades. De la même manière, ce soir, tant de conseils précieux, et j'aimerais vraiment remercier Jean-Marie et remercier Dieu pour sa parole, ont été donnés, mais vous allez le faire parce que vous croyez que ce que Dieu dit est vrai. Faut-il l'avoir rencontré ? Pendant que nos yeux sont fermés, faut-il l'avoir rencontré, Dieu ? Faut-il le connaître ? Comment puis-je faire confiance à quelqu'un que je ne connais pas ? Vous savez, moi, je ne fais pas confiance à n'importe quel individu. Je ne fais pas confiance à n'importe qui et que je verrai la première fois. Non, j'ai appris à faire confiance aux personnes avec qui je travaille, avec qui je suis, qui sont autour de moi. J'aimerais vous dire ce soir, mais vous pouvez faire confiance à Dieu. Et pour cela, il faut que vous le rencontriez. Et ce soir, il vous invite à venir à lui. J'aimerais faire une courte prière dans ce sens-là. Et s'il y a une personne ce soir, deux, trois ou plus, peu importe, qui dans son cœur voudrait le connaître, répétez simplement dans votre cœur ces quelques mots. Ô Dieu, je m'approche de toi. Ô Dieu, je m'approche de toi. Il est vrai que je ne te connais pas. Je ne te connais pas. J'ai entendu parler de toi. Mais je ne t'ai jamais rencontré. Ce soir, je veux t'ouvrir mon cœur. Ce soir, je veux t'ouvrir mon cœur. Je veux simplement te dire, prends-moi tel que je suis. Pardonne-moi toutes les fois où je t'ai offensé. Et donne-moi de pouvoir vivre cette foi comme je l'ai entendue ce soir, de manière concrète, que se traduise par des actes dans ma vie, cette foi que je professe maintenant avoir en toi. Je veux t'appartenir. Je veux un jour être avec toi, et cela pour l'éternité. Merci de m'accepter. Merci de me recevoir. Amen. Si vous avez fait cette prière dans votre cœur, pendant que nous imposerons les mains aux malades, vous pouvez vous approcher aussi avec eux et simplement dire à la personne qui prie, voilà, ce soir j'ai donné mon cœur à Dieu. Je veux le connaître. Pourriez-vous encore une fois prier pour moi ? Et ensuite, vous pourrez aller à la librairie, on vous offrira une Bible gracieusement, gratuitement. Simplement pour que vous puissiez la lire. Tous les merveilleux conseils que vous avez entendus ce soir sont tirés de la Bible. Pour votre bien, pour notre bien. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ta paix est une rivière. Ton amour est une montagne.